Bonjour à tous. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est vraiment parfait. Et notre désir, je pense, à chacun d'entre nous, c'est d'être dans la volonté pleine et entière de Dieu, de goûter à sa présence, de goûter à tout ce qu'il a de mets précieux pour nous. Moi, ça me réjouit de venir dans un culte comme celui-là, de venir dans des réunions de prière, de venir là où le Seigneur est. Il n'y a pas autre chose qui m'intéresse. Amen. Donc j'ai pris un sujet très simple aujourd'hui, c'est l'obéissance. Restez là. Hein. Parce que je sais que ce n'est pas forcément un sujet populaire. Et pourtant, nous pouvons savoir beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique. Mais gloire à Dieu. Nous avons un Dieu fidèle, un Dieu capable, plus que capable. Le sacrifice de la croix est plus que suffisant pour absolument tous nos besoins. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'obéissance, elle concerne tout le monde. Petit enfant, ou jusqu'au plus ancien. Et bien sûr, on nous demande des choses différentes quand on est un petit enfant que lorsqu'on est un ancien, lorsqu'on a déjà plusieurs kilomètres derrière nous au compteur. Mais à chaque fois, je ne sais pas si pour vous c'est comme pour moi, il y a des fois, ce n'est pas facile. Puis il y a quelque chose qui est venu sur mon cœur. J'avais prévu de vous parler de l'obéissance, mais quand je vous dis que le Seigneur est puissant pour nous parler, et il m'a guidé dans quelque chose qui est pourtant évident, c'est le thème de mon message, « Obéir, c'est aimer ». Donc ma chérie m'a dit, tu peux dire aussi « Aimer, c'est obéir ». Qui est pour la première version ?« Obéir, c'est aimer ». Qui est d'accord ? Non mais... Ouais, vous êtes timide là. Et aimer, c'est obéir. Ah bon, ballottage. Je pense qu'effectivement, on peut dire que les deux sont vrais. Et ça fonctionne très bien. Donc, pas de problème. Donc, on n'aura pas de dispute ce midi à la maison. On est vraiment d'accord sur ce sujet-là. Et il y a quelque chose, effectivement, qui résiste en nous quand il s'agit d'obéir. Quelque chose qui date du vieil homme, de notre chair, qui résiste. Mais dans l'obéissance, on manifeste l'amour de Dieu. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse de vous parler ce matin. Et donc, je vais prendre un texte bien connu, tellement connu, Jean 15. Moi qui me parle quasiment à chaque fois, donc je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais c'est merveilleux ce texte de Jean. Donc nous allons le prendre. Donc normalement il va être projeté. Bon, je commence. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. C'est vraiment un texte bien connu, n'est-ce pas ? Là, j'entends quelqu'un qui me répond. Et il y a différentes interprétations, mais donc celle qui m'intéresse, là, c'est celle des commandements qui demeurent en nous et qu'on va mettre en application. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Première démarche d'obéissance. Venez vous réfugier sous ma demeure. Et je viendrai demeurer en vous, parce que je suis le cep et vous êtes les sarments. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et alors on choisit de demeurer ou de se séparer. C'est déjà une première décision, un premier choix, une première obéissance. De recevoir la vie du cep ou d'en être séparé. Et peut-être que ça interpelle des gens ce matin. Au début du culte, on a entendu des prières, des supplications. Et peut-être, oui, que pour certains, ils peuvent se demander, mais où j'en suis ? J'ai vraiment pas l'impression que ta vie, Seigneur, elle coule en moi. J'ai l'impression d'être séparé du cep. Et bien sûr, séparé du cep, nous n'avons pas la sève divine. Nous n'avons pas la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui anime notre vie, qui nous donne la vie et la vie en abondance. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Jésus, il ne désire pas cette séparation. Il désire cette unité entre chacun des sarments et le cep, et que la vie divine, elle jaillisse, et que vous portiez du fruit. Peut-être pas celui que vous attendez, mais celui que lui a prévu, et qui est bien meilleur, qui est bien meilleur. Parce qu'il y a des fruits amers, n'est-ce pas ? Qu'on comprend bien après. Mais ce fruit divin, il ne laisse pas ce goût amer dans la bouche. Ce fruit divin, c'est vraiment l'adhésion parfaite et entière à ce que le Seigneur veut nous donner. Et à un moment donné, il y a différents moments, ce passage, enfin différents moments de ma vie chrétienne, ce passage m'a interpellé. À un moment donné, j'avais une sorte de découragement qui était venu. Et puis, je me suis posé la question, mais où j'en suis sur ce cep, ou sur ce cep, oui, où j'en suis vraiment, quoi. Et je reçois une parole qui était en fait quelque chose, un tout petit papier que je trouve écrit, et qui disait que un arbre, donc que ce soit un arbuste, un pied de vigne ou autre chose, grandit par ses bourgeons. Donc peut-être que vous êtes qu'un tout petit bourgeon. Fragile, qui vient juste d'éclore, là, au printemps, qui vient juste de pousser. Mais c'est par les bourgeons que l'arbre grandit. Amen. Donc ne soyez pas découragés, voire culpabilisés, peut-être honteux de dire « je ne suis rien, je ne suis qu'un tout petit bourgeon ». Mais alléluia, c'est par les bourgeons que le cèpe grandit, c'est par les bourgeons que l'Église grandit. Amen. Et c'est un bourgeon qui reste soudé au cèpe. Amen. Et qui devient un sarment. Et donc un pied de vigne qui va manifester l'abondance de Dieu. Et voilà ce qui nous intéresse. Et donc dans tout ce passage, ça ne nous parle que de ce lien entre l'amour de Dieu et l'obéissance, la complémentarité entre les deux. Donc au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Est-ce que ce n'est pas la manifestation du royaume de Dieu ? Le désir de Dieu, c'est qu'il se manifeste dans nos vies et que sa vie soit manifestée dans le monde entier. Et l'Église est cette ambassadrice, enfin cette ambassade même, au milieu du monde, au milieu d'un monde insoumis, pardon, en rébellion, pour dire « Demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Et ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. » La gloire de notre Père sera alors visible, le royaume de Dieu manifesté. C'est ce que nous désirons. Et on suit l'exemple de Jésus en tout cela. Jésus est venu présenter le Père. Verset 9 et verset 10, il nous est dit « La demeure, pardon, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Vous voyez la liaison entre les commandements que nous prenons, que nous acceptons, et l'amour de Dieu. « De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et cette demeure est une demeure d'amour. Demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et on voit là où cette notion d'obéissance, et c'est pas les bonnes diapos. Bon, c'est pas grave, mais il y avait que le texte de Jean 15. Donc, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. L'obéissance est vraiment cette connexion parfaite entre l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs et qui nous permet d'obéir. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que chrétiens ? Ben, on fait comme Jésus, on garde ses commandements. Et on permet à Dieu, le milieu dans lequel on vit, on permet à Dieu de pouvoir agir, de pouvoir toucher à la fois nos vies, mais les vies de ceux qui sont autour de nous. Et cet amour, il n'est pas fabriqué par nous. Cette obéissance ne doit pas être fabriquée par notre propre chair, mais doit être fabriquée par ce qu'on reçoit de Dieu. L'obéissance charnelle est une obéissance sans fruit, est une obéissance qui ne donne que des fruits amers, quelquefois. L'obéissance qui est motivée par l'amour de Dieu est une obéissance qui va produire un fruit éternel. Et il nous est dit aussi qu'il produit en nous une joie complète. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Notre joie soit complète. Notre joie d'appartenir au Seigneur, notre joie de lui obéir. Et au verset 14, Jésus nous parle de cette amitié. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » On retrouve cette unité entre l'amitié que le Seigneur désire. Et à travers cette amitié, il se passe quelque chose. Il se passe un désir d'obéir. C'est-à-dire que notre volonté s'efface devant la sienne. Verset 15, vous n'êtes plus des serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et nous ne sommes plus des serviteurs. Nous sommes devenus, nous, enfants de Dieu, des fils et des filles, élevés dans son amour. Et le verset 17 et le verset 12 nous parlent de ce que je vous commande, c'est de vous aimer aussi les uns les autres. Cet amour qui se répand. Ça, c'est l'ambiance et l'atmosphère du royaume de Dieu. Et quand on était avec Robert à la pastorale de Grenoble, Danny Silk nous disait de ne jamais éteindre notre amour. De ne jamais éteindre notre amour. Dans toutes nos relations, dans toutes nos rencontres, il y a quelque chose qui est important. C'est que notre interrupteur, notre vanne, j'en sais rien, d'amour soit ouverte, que l'amour de Dieu puisse passer. Tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez vivre dans la journée, c'est que toujours votre canal d'amour soit ouvert. Cet amour parfait qui permet de, à la fois d'écouter déjà tout simplement, mais aussi de comprendre, d'aimer, au-delà de toute considération, aimer quand c'est même plus possible, de pardonner. Cet amour-là, il a été manifesté sur la croix, et cet amour-là, il continue d'être notre exemple, il continue d'être notre moteur. Donc si vous voulez avancer, coupez pas les gaz, ne coupez pas le moteur. N'éteignez pas votre amour. Obéir, c'est aimer. Et aimer, c'est obéir. Et donc, je vous parlais de... C'est vrai, nous sommes dans un monde qui connaît la rébellion, qui connaît la soumission. Et ce n'est pas un message courant dans les discussions de tous les jours que l'obéissance. Et les vieux restes de rébellion, ils peuvent être là, hein, parce qu'en fait, nous tous, nous sommes rebellés contre Dieu, rebellés contre cette obéissance. Nous avons été aussi trempés dans cette atmosphère de rébellion. Et nous sommes, si nous ne prenons pas garde, entraînés rapidement. Mais ça, ce n'est pas l'atmosphère du royaume. Et... Les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse sont des choses qui sont connues par tout le monde, qui sont connues universellement et qui sont connues parfois comme des lois morales. Et on se moque de ces lois morales. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est une loi d'amour. C'est une loi que Dieu donnait aux hommes pour les garder, pour les préserver. Et donc, forcément, tout ça, ça marque, en tout cas, moi, ça m'a marqué dans mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, parce qu'en fait, on tremble dans cette ambiance-là. Et l'obéissance devient difficile parce qu'en fait, elle est marquée par des mensonges. L'objectif de la parole de Dieu, c'est de nous raligner avec toute la douceur de Dieu. Oui, toute la douceur de Dieu, de nous raligner sur la volonté de Dieu. La douceur de Dieu, ce n'est pas une main ferme qui va écraser. C'est une main qui limite la direction, qui reprend comme un père reprend son enfant, en ramenant dans la bonne direction, en étant patient dans les échecs. Notre Dieu est patient dans nos échecs. Je vous remercie, je ne vais peut-être pas dire quotidiennement, mais le Seigneur pour sa patience envers moi. Et cette main de notre papa, elle est douce. Bien sûr, elle nous ramène. Elle va pas. Si nous décidons d'aller coûte que coûte dans un autre sens, eh ben nous irons. Mais si notre cœur se rend disponible à l'écoute de Dieu, à l'instruction que nous donne sa parole, à l'instruction que nous donne l'Esprit de Dieu, que cette main est douce. Que cette main est douce pour nous ramener dans la vérité. C'est vraiment une main paisible. Et le péché, bien sûr, nous a voilé la prévenance de Dieu à notre égard. La prévenance de Dieu, c'est tout le conseil de Dieu dans toutes les circonstances, mais que notre oreille déformée n'a pas reconnu. Mais maintenant, nous avons cette possibilité, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous appartenons au Seigneur, de reconnaître cette voix, de reconnaître toute la prévenance, toute la prévenance, toute la bonté de Dieu concernant ses conseils. Et bien sûr, les conseils de Dieu, on va s'y soumettre, donc obéir ou ne pas obéir. Et il peut y avoir des résistances. Mais en même temps que le conseil, la main paisible de Dieu vient se poser sur notre cœur, il y a cette main d'amour, on reconnaît que c'est Dieu qui a posé sa main, c'est Dieu qui a parlé. C'est cette atmosphère d'amour que moi je désire tous les jours, cette atmosphère qui vient du royaume de Dieu, qui vient du ciel. C'est cette atmosphère divine que je veux vivre aussi dans l'Église, parce que c'est le lieu où Dieu peut parler, peut guérir, peut restaurer. Mais peut aussi nous ressourcer, parce que nous savons que nous ne connaissons pas les jours qui sont devant nous, il peut y avoir des jours difficiles. Et quand nous n'avons pas connu, fait cette expérience de l'amour de Dieu, cette fidélité de notre papa à nous conduire, pas comme un père autoritaire, pas autoritaire, mais rempli d'autoritarisme. Donc une autorité déformée, qui n'élève pas mais qui rabaisse. Notre Dieu élève. Le conseil de Dieu élève. Et quand nous sommes dans cette atmosphère-là, nous comprenons que l'obéissance est bien meilleure que la désobéissance. Une des définitions d'obéir, c'est soumettre notre volonté à une autre volonté. Notre volonté doit mourir pour une autre volonté bien meilleure. Et ça, c'est pas facile. Je peux vous dire pour quelqu'un comme moi qui a vécu dans la rébellion pendant très longtemps. Et tout ça, ça meurt. Alors là, je suis d'accord qu'il y a des branches, des mauvaises branches qui tombent. Parce qu'ils n'étaient pas sur un bon cep. Mais ce que Dieu fait, c'est que, uni au vrai cep, Jésus-Christ, il y a eu des petits bourgeons qui ont grandi et des branches qui portent du fruit, d'une autre nature, d'une nature qui manifeste l'amour de Dieu. Et sans la connaissance de Jésus, c'est vrai que c'est difficile de comprendre ces choses. C'est vrai que c'est difficile de capituler à la rébellion. C'est même impossible. C'est même impossible parce que nous voyons un monde d'injustice et suivant nos expériences, nous avons envie d'être de plus en plus, ferme dans cette rébellion. Et en fait, ce sont des combats qui sont vains, quoi. Bien sûr, ce monde est injuste. Parce qu'il est soumis à la domination de l'ennemi, de nos âmes, qui ne cesse de vouloir détruire les hommes et les femmes sur cette terre, qui ne cesse de semer toutes sortes de venins pour détruire les vies. Mais un jour, quand vous posez les genoux à terre, vous dites « Seigneur, mais ce n'est pas possible. Je veux te connaître. Je crois que ce n'est pas cette vie à laquelle tu as prévu que je vienne. Je crois que cette vie, elle ne mène à rien. Parce que mes combats, on peut reconnaître que nos combats sont vains. Ça, je crois qu'on peut le reconnaître. Et de crier à Dieu. C'est à ce moment-là, Robert parle assez souvent que il est bon de m'être humilié, d'être humilié pour pouvoir le reconnaître, que notre cœur soit humilié afin qu'il puisse s'ouvrir, qu'il puisse donner la place à la grâce de Dieu. Nous allons prendre Jean 8. Donc de 25 à 36, qui nous donne encore une autre dimension. Jean 8, 25 à 36, donc « Toi qui es-tu ?» lui dirent-ils. Donc les pharisiens s'adressaient à Jésus de cette façon. « Toi qui es-tu ?» lui dirent-ils. Jésus leur répondit « Ce que je vous dis depuis le début. » J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi aussi, que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. » Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre ?»« en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne reste pas toujours, pour toujours dans la famille. C'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et verset 25, c'est vraiment l'expression de cette rébellion. Et Jésus répond sans colère. Il répond sans colère. Oui, son bouton d'amour, son interrupteur d'amour, il est vraiment sur on. Il n'est pas fermé. L'expression de Jésus, elle est d'accueillir ceux qui sont dans la controverse, ceux qui sont dans la rébellion. Et donc vous connaîtrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Jésus est venu pour nous présenter le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu notre Père. Amen. Et donc il dit ensuite, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Une obéissance parfaite, une obéissance manifestée par l'amour du Père. Il est venu manifester l'amour du Père. L'obéissance manifeste l'amour du Père. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup crurent en lui. Et beaucoup crurent en lui. À travers l'obéissance, à travers l'amour du Père manifesté. Obéir, c'est aimer. Amen. Ensuite, toujours dans Jean 8, c'est vrai que la définition, l'expression de la liberté, elle est très très, très, très large. Peut-être tout le monde a sa définition d'ailleurs. Et nous pouvons reconnaître que nous avons été aussi dans une fausse liberté, dans des fausses libertés, aveuglés toujours par le péché. Et nous pouvons croire que nous allons vers plus de liberté alors que nous sommes de plus en plus enchaînés par le péché, de plus en plus esclaves du péché. Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, il est dit, donc Pierre disait, ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l'a dominé. Peut-être esclave, on est esclave de ce qui nous domine. Ensuite, au verset 36, Jésus reprend à nouveau. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Le Fils, Jésus, nous a libérés pour une obéissance qui est la choisie, une obéissance qui est heureuse, qui est décidée, pleinement acceptée. Et l'obéissance n'est plus une contrainte, mais l'obéissance elle devient une libération. Un acte qu'on pose d'obéissance, de dire « je mets ma main dans la tienne, Seigneur », cet acte d'obéissance est un acte de libération. Et nous avons besoin de l'expérimenter non seulement une fois, quand nous nous convertissons, mais toute notre vie. Parce que ces mots sont très simples. Obéir, c'est aimer. Aimer, c'est obéir. C'est très simple. Si ça reste dans la tête, ça ne produit pas grand-chose. Ça doit descendre dans notre cœur. Ça doit être l'intention de tous les jours. C'est ça qui transforme notre vie. Ce sont des tout petits mots, mais vous allez voir plus loin. Des tout petits mots qui nous amène vers des choses extraordinaires, suivant l'exemple de Jésus. Donc Jésus a toujours manifesté, a toujours montré l'obéissance. Voilà. Et donc là, je vais prendre le passage d'Hébreux 5:7. Qu'on peut lire rapidement aussi. Quelquefois, on a des survols rapides de la parole de Dieu, comme on survole un territoire sans voir les trésors qu'il y a en dessous. Donc, survoler tranquillement. Il y a une balade en ULM, comme Jean-François, pas très haut, mais qui permet de bien observer les merveilles de la nature. Donc Hébreux 5:7, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc je vous invite à atterrir en douceur sur ce verset et vraiment à voir l'obéissance de Jésus, le Fils de Dieu. Et l'auteur de cette épître, aux Hébreux, nous montre toute l'humanité de Jésus, qui dans sa vie d'homme, et donc devant la croix qui était devant lui, devant quelque chose qui était impossible pour lui, s'écrit ses larmes face à la mort, face au péché qu'il endossait, notre péché qu'il endossait, crier à Dieu. Et vous savez que Jésus a obéi jusqu'à la fin. Et la vie de Jésus, finalement, du début à la fin, a été croissante dans l'obéissante. Et notre vie d'enfant jusqu'à notre dernier souffle est une vie croissante dans l'obéissance aussi. Et à chaque pas, on apprend. Et ce qui nous fait peur, bien sûr, c'est la souffrance qu'il y a devant nous. De mettre un pas dans cette obéissance et en disant « j'ai peur de souffrir ». Tout le monde a peur de souffrir. Jésus avait peur de souffrir dans sa nature humaine. Mais il savait que ce commandement ne venait pas de lui. Ce qui lui était demandé ne venait pas de lui, mais venait du Père. Et il le faisait par amour pour nous. Et notre obéissance, quand elle est motivée par l'obéissance, par l'amour, pardon, quand elle est motivée par l'amour, l'amour suprême qui va nous entraîner, canal ouvert, avec l'amour de Dieu qui peut couler, qui peut se répandre, l'obéissance devient plus facile. Ce que nous ne voulions pas avant, eh bien, nous pouvons le faire. Et des petites obéissances conduisent à des plus grandes. Et le pas à pas, chaque pas appuyé par la présence de Dieu, chaque pas est simple en lui-même, mais chaque pas nous conduit à grandir, à monter cette montagne. Et bien sûr, si vous faites une montagne de croire que vous avez un grand pas, parce que vous voyez tout de suite que c'est jusqu'en haut de la montagne que vous devez aller et faire un grand pas, ce grand pas est impossible. Mais nous grandissons pas à pas. La nature a une vitesse. Et si on ne respecte pas cette vitesse, si on ne respecte pas la croissance dans le règne animal comme dans le règne végétal, et bien en fait, on a soit un produit qui va se dégénérer très rapidement, ou un produit qui n'a pas de maturité, qui est sans saveur. La croissance, elle se produit pas à pas. La croissance d'un enfant de Dieu, elle se fait pas à pas. Et vous pouvez être découragé parce que vous dites « mais j'en suis encore là !» Mais qui te dit que tu n'as pas avancé ? Elle se fait pas à pas. Et peut-être que vous avez fait des petits pas. Peut-être qu'ils seront un petit peu plus grands après. J'en sais rien. Ne vous découragez pas si vous avancez pas à pas. Pour moi, c'est la bonne vitesse. Quand on gravit une montagne, on la gravit pas à pas. Donc dans ce passage d'Hébreux au verset 8, et bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Bien qu'étant fils de Dieu, le fils de Dieu a dû apprendre l'obéissance. Le fils de Dieu a dû apprendre l'obéissance. C'est bizarre, non ? Dans sa nature humaine, il a dû apprendre cette obéissance. Donc, à plus forte raison, nous, on doit apprendre cette obéissance, bien qu'étant fils de Dieu. Mais dans une chair, oui, semblable à la nôtre, C'est-à-dire, oui, soumis à cette souffrance qui est un frein. On ne veut pas souffrir. Et Jésus a capitulé devant toute la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et l'obéissance est l'essence même du salut. Ce sont des paroles d'Andrew Murray. L'obéissance est l'essence même du salut. Sans cette obéissance-là, il n'y avait pas de salut. L'obéissance de Jésus a rendu l'œuvre de la croix parfaite. Sans cette obéissance, toute son obéissance, la croix n'était pas parfaite. Et nous, on proclame que la croix, elle est parfaite. Elle est plus que suffisante pour tous nos besoins. Merci Seigneur pour ton obéissance pas à pas. L'obéissance est l'essence même du salut, et de notre salut aussi. Parce que si nous nous mettons en travers, le salut ne passe plus. Et il nous a donné aussi cet esprit d'obéissance. Je vous ai dit que c'était difficile pour le plus petit comme pour le plus grand. Et je peux vous avouer que bien souvent, je n'obéis pas la première fois. Je dis, Seigneur, non, tu as dû te tromper. T'es sûr, Seigneur? T'es bien sûr? Oh, non. Et ce qui est merveilleux dans la relation à Dieu, c'est vraiment ce langage d'amour, cette main qui nous prend, jamais sous la contrainte. Et là, je la reconnais, je dis oui, Seigneur, ça, je suis sûr que c'est le meilleur. Donc, soyez pas découragés si vous êtes comme moi. Bon, je pense que vous êtes dans une chair semblable à la mienne aussi. Et ensuite, des bénédictions découlent de cette obéissance. Dans Jean 15-16, donc je vous relis, « Je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Ce sont bien des fruits du royaume de Dieu. Voulez-vous que votre vie porte du fruit? C'est un fruit promis. À l'obéissance, il y a un fruit qui est promis. Je ne sais pas lequel il est pour vous. Je ne sais même pas pour moi. J'en connais. Je ne sais pas les fruits à venir. Mais merci Seigneur. Je ne sais pas non plus de quelle nature seront les fruits que vont porter mes pommiers cette année. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur n'a pas interrompu pour nous à la fois sa grâce et son amour, et que sa vie en nous va produire du fruit. Et dans l'obéissance, il y a vraiment cette communion et cette alliance même, donc qui est celle de la présence de Dieu. Donc Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Amen. Et nous établirons domicile chez lui. Amen. » C'est la présence de Dieu. Il y a vraiment ce fruit exceptionnel qui est la présence de Dieu dans nos vies. Qui est une réponse de notre obéissance. Dans notre obéissance, là, je peux vous dire que la présence de Dieu est manifestée. La présence de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Non. Vous êtes timide, hein? Il n'y a rien de mieux. Rien de mieux à expérimenter que la présence de Dieu. Et toujours, cette obéissance et cet amour sont associés. Et c'est comme un duo qui fonctionne, qui caractérise l'atmosphère du royaume de Dieu. Obéissance et amour. Et toujours dans... On pourrait en donner beaucoup hein, de bénédictions qui découlent de l'obéissance. Il y a des fruits dont je connais l'origine, qui sont la santé que Dieu nous donne. Je vous ai dit dans les 10 commandements, c'était des commandements de prévenance. Bien sûr, on pouvait dire qu'il y a une dimension spirituelle, mais il y avait une dimension très naturelle. Pour que son peuple, le peuple de Dieu, soit en bonne santé. Exode 15, 26, il dit « Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et le Proverbe 4, versets 20 à 22, nous dit « Mon fils, ma fille aussi, hein, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, là où c'est le plus précieux. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Amen. » Et bien avant toutes les règles d'hygiène que nous pouvons connaître dans ce monde si évolué, peut-être quelquefois déséquilibré, Dieu avait des règles d'hygiène pour nous dans les 10 commandements. Et à chaque fois, dans les paroles de Dieu, le Seigneur nous prévient de certaines choses. Il ne veut pas nous cacher. Il ne veut pas nous cacher les choses qui nous attendent ou pourraient nous attendre. Il nous prévient. Ce sont des mesures de précaution. C'est une médecine préventive. Il garde notre santé tout entière. L'esprit, bien sûr, mais aussi l'âme et le corps. Tout notre être entier est déjà apaisé par la parole de Dieu, la parole vivante qui vient en nous. Et on sait que bien des maladies psychosomatiques sont vraiment des troubles de l'âme, quoi. Des déséquilibres qui produisent une extériorisation d'une maladie. Et la paix de Dieu coule comme un fleuve d'amour, apaisant nos cœurs. La paix de Dieu, c'est l'atmosphère du royaume de Dieu aussi. Recherchez-la quand il y a un moment de trouble, et peut-être c'est le moment de s'interroger, mais Seigneur, mais peut-être je suis égaré quelque part. Est-ce que j'ai pas écouté? Viens me dire, Seigneur, si je suis dans ta volonté, si je me suis écarté. Mais je ne voudrais pas non plus qu'il y ait d'accusation qui soit portée contre des gens qui sont malades. Aujourd'hui, en disant que tu es malade, mais parce que tu n'as pas obéi. Ça, ce n'est pas le message de l'Église, ce n'est pas le message de Dieu, ça. Le message de Dieu, c'est le message qui éclaire, qui n'accuse pas. C'est un message qui nous donne l'information juste, équilibrée, et qui nous permet de corriger le tir. Dans la présence de Dieu, bien sûr, il y a tous les dons de Dieu qui sont exprimés. Et s'il y a tous les dons de Dieu, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il est là, il est présent, encore pour nous guérir, esprit, âme et corps. Nous délivrer de toutes les captivités, de cette liberté mal comprise, de ces rébellions que le Seigneur veut guérir. Quelle grâce de connaître ces révélations de Dieu qui viennent éclairer tant de mensonges déposés dans nos cœurs. Que vos cœurs soient paisibles ce matin, d'accueillir, mais non seulement ce matin, mais tous les jours, d'accueillir vraiment comme une parole de vie, comme une parole qui guérit, mais comme une parole qui produit quelque chose d'éternel en vous. Des fruits d'abondance qui sont non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Et que votre interrupteur du passage de cette expression de l'amour soit toujours sur on. Je ne sais pas où il est chez vous, je crois qu'il est dans nos cœurs, qu'il soit toujours sur on, cette expression de l'amour. Seigneur, je veux laisser passer ton amour. Et moi, je compare souvent ce fleuve de Dieu, qui est un fleuve d'amour, qui irrigue nos vies, qui irrigue l'Église, qui irrigue tous les petits canaux, tous les petits tuyaux que nous sommes. Et nous sommes chacun, pour notre part, des petits tuyaux d'amour qui apportons cette nature divine dans le monde. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire que c'est toujours facile, mais c'est bien que ce ne soit pas facile. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on demande de secours à Dieu. Et on sait que c'est lui qui est intervenu. C'est vraiment cette dépendance que je voudrais que vous exprimiez, que vous expérimentiez tous les jours. En disant, c'est pas possible d'obéir, de donner de l'amour. C'est pas possible de pardonner. C'est pas possible. Mais c'est pas possible par moi-même. Seigneur, viens irriguer tout mon être de ton amour. Viens irriguer tout mon être de ta volonté. Viens éclairer ma vie afin que les mensonges qui dirigent encore ma vie, ces conceptions de liberté, toutes les erreurs dans lesquelles je marche, Seigneur, tu viens de les confondre. Et je sais que le Seigneur va les confondre. Il va apporter cette vérité dans votre cœur. Et cette vérité, c'est toutes ces petites choses que vous pouvez lire et qui peut-être sont seulement dans votre tête pour l'instant et qui vont se manifester comme des positions, des décisions d'actes d'amour. Donc c'est là-dessus que je voulais vous encourager. L'obéissance difficile, mais d'autres actes dans vos vies qui sont difficiles, qu'ils soient influencés pleinement, totalement par l'amour de Dieu. Que vous, dans votre cœur, vous qui avez expérimenté l'amour de Dieu, ce canal soit toujours ouvert. Peut-être qu'il y a des branches, peut-être qu'il y a des feuilles, peut-être des barrages accidentels se sont créés. Le Seigneur va vous aider à enlever les pierres, à enlever les branches. Il veut qu'il coule cet amour. L'Église du Seigneur est une église, c'est un canal d'amour. Amen.